RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La bataille contre les fake news est essentielle pour la santé publique. C'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui le déclarait il y a quelques mois, la désinformation médicale. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais les réseaux sociaux, Internet, associés dans certaines régions du globe à un mouvement de défiance à l'encontre du système, ont amplifié ce phénomène. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi ces intox santé ont-elles un tel succès. Nutrition, vaccination, cancer, quels sont les sujets de prédilection des charlatans du net, qui sont les acteurs qui animent cette manipulation aux dépens de la santé publique, car ces fausses nouvelles peuvent se révéler particulièrement dangereuses, éloigner des patients d'un traitement efficace, faire renoncer certains parents à protéger leurs enfants contre les maladies infectieuses, faire prendre des habitudes alimentaires néfastes, bref, nuire à la santé en distillant des données tronquées, des témoignages extravagants, des promesses de guérison facile, avec parfois en toile de fond des relents conspirationnistes. Et en regardant de plus près ces fake news médicales, on constate que souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Et pourtant, cette désinformation, aussi farfelue soit-elle, doit être traitée avec le plus grand sérieux, l'analyser, la démonter, la contrer par des arguments fiables pour faire revenir internautes, citoyens et patients vers des remèdes éprouvés, des traitements efficaces qui, sans être miraculeux, ne nuisent pas à leur santé. Fausses nouvelles, infox, intox et autres fake news en matière de santé. On en parle avec nos invités, avec nous en studio. Sylvain Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et expert en nutrition. On vous retrouve en duplex de Nantes, docteur Corentin Lacroix, bonjour.
Bonjour, très belle introduction.
Merci. Vous êtes médecin généraliste à Vertou, c'est au sud de Nantes. Vous êtes chargé d'enseignement pour le département de médecine générale à Nantes, justement. Blogueur pour votre chaîne YouTube WhyDoc. Et vous vous trouvez actuellement dans les studios de nos confrères de France Bleu Loire-Océan, que l'on remercie bien sûr pour leur accueil. Le mois dernier, l'INSERM a lancé Canal Détox, des spots thématiques pour combattre la désinformation dans de multiples domaines, notamment celui de la vaccination, comme on l'entendra avec Marie-Paul Kieny, directrice de recherche dans le domaine de l'international. Et puis nous rejoindrons en Guinée le docteur Morissanda Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques affectant la santé des femmes et des enfants. Illustration donc de cette désinformation qui a aussi cours en Afrique de l'Ouest. En fin d'émission, nous évoquerons les effets sanitaires de la pollution atmosphérique à Abidjan au travers d'une étude qui vient d'être publiée. Nous joindrons Isabella Anessi Maessano, responsable de l'équipe d'épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique de l'INSERM. Et puis bien sûr, on attend vos questions, vos témoignages, notre page Facebook et au 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Je le disais il y a quelques secondes, plus c'est gros, plus ça passe. Je vais vous donner à tous les deux la parole dans quelques instants, mais d'abord, illustration du fait que ces fake news, ce n'est pas l'exclusivité d'Internet. Il nous arrive, nous aussi, d'y être confrontés sur nos ondes, ou ici, à Priorité Santé.
Il y a un médecin qui m'a conseillé de suivre un régime. Il m'avait conseillé de prendre la pomme verte. Et ça, c'est dégraissant. J'ai consulté un autre médecin. Ce dernier me dit que la pomme verte engendre la stérilité. J'ai abandonné aussi les pommes vertes.
Dans les villages les plus reculés du Mali, et souvent même à Bamako, le citron est utilisé comme une méthode de contraception. Donc mes questions sont les suivantes. Quel impact a le citron sur le sperme? Sur-t-il les spermatozoïdes?
Pommes vertes, citron, dans les deux cas, avec les différents médecins qu'on avait en studio, on a bien sûr démenti, on a bien sûr clarifié les choses. Ces auditeurs de Priorité Santé, une petite question qui peut paraître anecdotique. Sylvain Duval, quand on va sur Internet, qu'est-ce qu'il y a comme site qui parle de fruits, de légumes, de remèdes miracles, voire fruits et légumes très dangereux? Comment ça se fait que des choses aussi anodines que des pommes, du citron, on voit aussi l'avocat, la banane, l'ananas, c'est une véritable salade de fruits, ça n'arrête pas, et tout ça associé à des vertus miraculeuses? ou dangereuse.
Ou dangereuse, oui, je dirais que c'est une sorte de contre-pied à notre ère de l'industrialisation. Et les gens ont envie de se tourner vers du naturel. Et comme ils se tournent vers du naturel, ils ne savent plus quoi croire. Donc il y a une défiance envers les médicaments et envers les choses industrielles. Et donc forcément, le naturel revient au galop et devient pour le coup beau et bon.
Et en plus, facile d'accès.
Alors, facile d'accès, oui, parce que c'est pas plus compliqué à acheter que les produits industriels, mais on remarque que c'est plutôt les produits industriels qui sont faciles d'accès. 80% quasiment du panier de la ménagère, ce sont des produits industriels.
Alors, docteur Corentin Lacroix, on pourrait être tenté parfois de sourire de ces fake news, voire d'en rire, mais c'est loin d'être drôle, parce que ça peut être carrément préjudiciable pour la santé. Là, on parle de contraception, donc c'est très grave, même de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. On comprend que c'est très sérieux.
Tout à fait. Moi, je connais plus le sujet de l'asthme pour lequel j'ai travaillé sur ma thèse, les informations de l'asthme sur YouTube, et on retrouverait pas mal d'informations, enfin de conseils, notamment alimentaires. Il y avait, je crois, une soixantaine d'aliments qui pouvaient être conseillés ou déconseillés selon les vidéos. Alors, ça peut faire sourire, effectivement, prendre de la papaye ou faire des bains de pied. Quand c'est en complément du traitement, pourquoi pas, mais quand on déconseille de prendre un traitement comme le salbutamol ou les corticoïdes qui sont prouvés, qui sont efficaces, là, ça peut devenir très dangereux.
Docteur Corentin Lacroix, est-ce que vous avez détricoté le mode argumentaire de ces fake news? Est-ce qu'il y a des points communs dans la façon d'amener les choses?
Oui, on retrouve pas mal d'arguments. Il y a souvent l'argument ad populum, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui le font, donc ça doit être vrai. L'argument que mon confrère a cité, naturel, le naturel c'est mieux que l'industriel. On demandera aux gens de goûter la ciguë, voir si c'est mieux. L'argument traditionnel, c'est fait depuis des centaines d'années, ça doit être bien. La saignée, c'est pareil, c'était fait pendant des centaines d'années, et pourtant, on s'est trompé. Et puis, on a deux autres arguments, l'argument d'autorité, les stars le font, alors forcément, ça doit être bien. Et l'argument un peu barbare, post-hoc, ergo, propteroc, c'est-à-dire...
Traduction.
Si, traduction, oui, bah oui, je vais pas vous laisser comme ça.
Bah oui, allez-y.
Traduction, si un événement survient après un autre événement, c'est-à-dire que les deux sont forcément corrélés, ce qui n'est pas forcément vrai.
C'est ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu.
Oui,
à peu près.
C'est vrai.
À peu près.
C'est pour trouver la cause du feu, c'est ça.
Alors, donc
voilà, on a pas mal d'arguments qu'on retrouve assez souvent.
Une des informations, vous le disiez, ça se fait depuis des centaines d'années sur certains produits. Cette désinformation, le charlatanisme, hein, on en a plein des charlatans. Molière l'a mis en scène dans Le Médecin malgré lui, etc. C'est pas d'hier, docteur Corentin Lacroix. Est-ce que le phénomène s'est amplifié ou c'est l'impression qu'on en a aujourd'hui?
On a pas mal d'accès à l'information. Avant, le patient voulait, enfin, aller voir son médecin pour discuter ou aller voir le rebouteux du coin. Maintenant, il peut discuter avec pas mal d'autres gens et avec beaucoup plus de monde. Donc, Internet, maintenant, c'est incontournable. On est d'accord. Et forcément, il y a à boire et à manger, quoi. Il y a beaucoup de choses bonnes et beaucoup de choses vraies. Et là-dedans, c'est pas facile de faire le tri pour l'individu lambda.
Alors Sylvain Duval, je m'adresse à l'expert en nutrition, énormément d'infox, hein, de fausses infos dans ce domaine, régime révolutionnaire, aliments miracles. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement que l'alimentation suscite tant d'attentes, y compris en dépit du bon sens?
Parce que tout le monde s'alimente plusieurs fois par jour, donc c'est vraiment un acte qui est de notre quotidien. On retrouve souvent cette citation d'Hippocrate que ton aliment soit ta première médecine. Donc dans un épisode de défiance des médicaments et de l'industrie, donc ce qui est naturel et alimentaire, ça va devenir finalement une bouée de secours. Ceci dit, je voudrais pas dire que cette défiance, elle est envers les médicaments et l'industrie, elle est fausse. Elle est aussi ce que l'industrie et les grandes compagnies alimentent aussi leur propre marketing, leurs propres fausses idées. Donc, ça veut dire que finalement, les personnes ont raison de douter, mais ce doute est la faille qui permet à tout et à n'importe quoi d'entrer dans leur cerveau.
Il y a plusieurs sources, hein, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a plusieurs sources, Sylvain Duval, de ces fake news. Il y a des individus qui, chez eux, alimentent des sites, il y a des personnes qui font des publications bidons, et puis il y a aussi des groupes industriels qui profitent justement d'une forme de crédulité pour faire passer des messages, et là, on parle carrément de stratégie marketing.
Alors oui, d'ailleurs, les produits industriels sont vraiment propices à cela, puisqu'ils portent sur leur emballage des allégations qui récemment ont été contrôlées par l'Europe, pour dire il y en a beaucoup, plusieurs milliers qui ont été supprimés, qui n'ont plus le droit d'exister. Mais finalement, quand vous allez prendre une céréale petit déjeuner pour les enfants et que vous allez voir qu'elle est riche en magnésium, qu'elle est riche en fer, qu'elle contient de la vitamine C, finalement la maman elle va traduire ça en disant c'est bon pour mon enfant, alors qu'une céréale pour les céréales pour les enfants, en général, ce sont des produits trop sucrés, trop salés, souvent trop gras également.
Alors justement, docteur Corentin Lacroix, on disait contexte global de défiance à l'encontre du système, de la médecine dite traditionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'écart s'est rétréci entre croyance et science ?
Non, je ne pense pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue docteur Duval sur la faille dans l'esprit des gens par rapport à faire attention en fait à l'industrie pharmaceutique. Est-ce que la faille entre la croyance et la science? Non, parce que je vais rentrer un peu dedans, mais la religion est encore présente et je m'en arrêterai là.
Alors, Sylvain Duval n'est pas médecin, ça n'empêche qu'il est expert en nutrition et biologiste. Docteur Corentin Lacroix, par contre, là, il y a une question pointue que je vous pose. Certains médecins cautionnent certains sites douteux, ça, on ne peut pas le démentir. Comment, d'ailleurs, l'Ordre des médecins régulièrement est appelé sur ces sujets à sanctionner, à exclure certains de ces médecins. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui va croissant ?
En tout cas, c'est un phénomène qu'on essaie de plus en plus dénoncer, parce que c'est pas acceptable que des confrères promeuvent des pratiques non prouvées et potentiellement dangereuses. Et on peut se poser la question de leur conflit d'intérêt à ce moment-là, avec les thérapies qu'ils proposent. Est-ce que les livres ou les sessions audio qui sont proposées, est-ce qu'ils en touchent un bénéfice ou non ? C'est une question qu'il faut se poser.
Alors, vous êtes médecin généraliste, vous avez choisi, au travers de YouTube, docteur Corentin Lacroix, d'agir via un réseau. En fait, vous utilisez le même canal que celui employé par pas mal de celles et de ceux qui lancent, qui relaient la désinformation médicale. Est-ce que, justement, Internet permet d'atteindre la cible de ces fake news ?
Oui, moi quand j'ai créé une chaîne YouTube, c'était pour faire contrepoids justement à toutes ces fake news qu'on entendait parler, pour utiliser le même canal qu'eux et faire contrebalancer ces informations. C'est un moyen très facile de propager ces informations. Comme avant on utilisait le journal, maintenant on utilise YouTube. Et j'espère faire un contrepoids à ces fausses informations.
Alors les commentaires, en général, ils sont très virulents, très passionnés sur ces sites internet, quand on se prononce sur les vaccins, sur des affaires sanitaires en cours, le lévothyrox, par exemple, ce médicament pour soigner les personnes atteintes de maladies de la thyroïde, que ce soit aussi pour le scandale du lait maternisé de la firme Lactalis. On a du mal à calmer les esprits. Est-ce que vous, justement, il y a des commentaires très passionnés après vos films sur YouTube ?
Alors, la plupart sont très très agréables comme commentaires. La plupart sont très très cordiales. Mais la vidéo sur les vaccins, alors là, j'ai été traité de tous les noms. Je suis un fils de Satan vendu au laboratoire. C'est vraiment le sujet qui fait polémique. J'aurais aimé faire un jour une vidéo sur la maladie de Lyme, je pense que ça serait la même chose. Sur les lévothyrox, je pense que ce serait la même chose. Après, je ne pense pas qu'on peut convaincre des gens déjà convaincus, mais ça peut être utile à des gens qui sont assez indécis, ce qui est quand même la majorité des gens que je peux croiser moi en consultation, des gens qui se posent des questions, qui ont entendu des arguments contre donc les vaccins en l'occurrence, des arguments pour aussi, et qui n'arrivent pas à faire la part des choses.
Alors justement, sur cette question, excusez-moi de vous couper, tout à l'heure, on va y revenir précisément à cette question des vaccins avec une chercheure de l'INSERM. Juste Internet, donc, pour contrer les fake news, mais la presse traditionnelle n'est pas en reste. Dans quelques instants, un petit reportage.
Priorité santé ? sur RFI.
Pour donner la parole à Caroline Tourbe, c'est la chef du service Société et Santé du magazine Science et Vie, rédaction sensible, réactive elle aussi face à ces fausses informations qui circulent sur Internet. Raphaël Constant l'a rencontré.
Nous avons le temps. À Science et Vie, nous sommes un mensuel. Nous paraissons donc une fois par mois. Ça nous laisse le temps de travailler posément, de se donner aussi la place. Nos articles sont plus longs que dans la plupart des autres médias. Depuis plusieurs années, on a une rubrique qui s'appelle Fake News en Science et Vie. Et c'est une rubrique qu'on a mis du temps à faire émerger, tout simplement parce qu'en fait, on s'aperçoit que ça fait très longtemps, ça fait des années et des années et des décennies que systématiquement, les fake news sont au cœur de nos sujets. Donc on est tout le temps en train de peser l'information, la désinformation depuis toujours. Donc on a quand même décidé de faire une rubrique fake news dans laquelle on fait un choix de prendre les fake news les plus énormes. Ça peut aller sur des informations sur le cancer, sur des thérapies qui seraient extrêmement innovantes ou au contraire extrêmement délétères. On va faire en sorte de pouvoir en parler dans tous nos papiers. Et d'autre part, nous croisons les sources. C'est-à-dire que face à une fake news, on ne va pas d'abord se dire, même si ça a l'air farfelu, on ne va pas forcément se dire que c'est une idiotie. On essaye de comprendre d'où ça vient. Et on travaille avec énormément de contacts dans le monde scientifique et dans le monde médical. L'autre point, c'est aussi qu'on fait en sorte de résister le plus possible aux pressions publicitaires ou aux pressions des annonceurs. Parce que les fake news, il y en a de toutes sortes. Il y a des fake news qui peuvent être issues d'une communauté avec des visées politiques ou religieuses qui va essayer de disséminer un propos. Encore, peut-être prenons encore l'exemple des vaccins. Mais ça peut aussi venir de personnes qui vont avoir un intérêt économique, qui vont vendre des traitements pour soigner contre la grippe ou des traitements naturels pour soigner contre je ne sais quelle maladie, qui vont avoir intérêt à véhiculer de fausses informations sur les vaccins. Donc on essaye toujours de remonter la piste le plus haut possible pour essayer d'avoir la source de la fausse information et évidemment de remonter à la source de ce qui est l'information.
Des propos recueillis par Raphaël Constant, contexte de défiance, on l'a dit, hein, stratégie marketing et donc cette dimension purement mercantile, économique. Docteur Corentin Lacroix, les sites qui relayent cette désinformation médicale génèrent aussi de nombreux clics et qui dit clic dit recette publicitaire.
Ah oui, je suis bien d'accord. C'est plus facile de faire du clic avec le remède miracle contre le cancer plutôt que de dire les recherches avancent doucement, on essaye, on tâtonne, on fait des essais cliniques, ça va prendre 10 ans. Donc c'est sûr que le sensationnalisme fait du clic et donc fait des revenus.
Alors justement, l'importance de ce phénomène est justement dénoncer ces phénomènes, les expliquer. Est-ce que finalement, c'est pas beaucoup plus compliqué? Comment on s'y prend là? On entendait comment démonter la rumeur, comment ça se passe dans la rédaction de Science et Vie. Docteur Corentin Lacroix, vous, comment vous travaillez sur vos spots, sur vos messages pour détricoter ces fausses informations?
Déjà, j'essaie de pas faire culpabiliser les gens parce que je pars du principe que quand ils ont une idée, qu'elle soit vraie ou fausse, il y a une certaine logique derrière. Quand j'ai commencé ma vidéo sur les vaccins, j'ai trouvé beaucoup d'arguments que je ne savais pas détricoter à brûle-pourpoint. Donc je fais beaucoup de recherches scientifiques sur tout ce qui est universitaire, articles scientifiques, et d'autre part, je vais me pencher sur tout ce qui est dit sur les forums de patients pour comprendre la logique derrière, et ensuite j'essaye de faire un exposé avec des mots simples et des choses vraies.
Sylvain Duval, justement, développer l'esprit critique, regarder les publications, les comparer, voir ce qui cloche, éventuellement dénoncer certaines publications douteuses, ça prend beaucoup de temps. Dire n'importe quoi sur Internet, c'est facile et ça prend pas beaucoup de temps. Il y a vraiment une injustice, justement, dans ce travail d'analyse, l'investissement personnel qu'il faut mettre pour combattre ces fake news.
Ce qui est difficile dans ce sujet, c'est qu'en fait, les personnes qui sont en face pourraient dire exactement la même chose. Ça veut dire que si, imaginons que moi, je ne crois pas à l'homéopathie et je dise l'homéopathie, ça ne marche pas, tout de suite, il y a des gens qui vont s'offusquer en disant, mais voilà, vous avez dit en un mot, vous avez détruit 1000 années, enfin, je sais pas, ou 100 années d'homéopathie. Donc c'est pour ça qu'aussi que les réactions seraient très virulentes. De la même façon, s'il y a un médicament qui ne marche pas, quelqu'un qui va être un lobbyiste pour ce médicament va dire « mais non, vous avez tout à fait tort, 99% des médecins de la planète savent que ce médicament marche ». Donc voilà, il y a des choses comme ça. Les lobbyistes sont aussi habitués, avec des phrases très courtes et percutantes, à distiller le mensonge de manière très subtile, avec derrière, souvent le mensonge s'adosse à des vérités, pour être plus fort.
Oui, mais là, on est dans une stratégie de communication, on n'est pas dans une stratégie médicale.
Non, justement, c'est pour ça que ma base pour comprendre, par exemple, le monde des médicaments, c'est la revue Prescrire qui, chaque mois, analyse tous les médicaments. Donc, dans mon association, le Forum Indep, nous, on est là pour une formation qui est indépendante par rapport aux conflits d'intérêts. On ne va pas être des experts médicaux, on va juste... Notre sujet, c'est les conflits d'intérêts. D'ailleurs, il n'y en a pas, d'ailleurs, en nutrition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui protège le consommateur pour dire tel professionnel de santé doit annoncer ses liens d'intérêt à l'antenne, alors que pour les médicaments, la loi existe, mais n'est pas respectée souvent sur les antennes. C'est-à-dire que les journalistes disent c'est trop long, ou alors les gens disent j'ai pas le temps de le faire, etc.
Docteur Corentin Lacroix, s'il fallait dresser un palmarès des domaines médicaux les plus souvent pris pour cible par cette désinformation, un petit tiercé de tête, c'est quoi les sujets préférés de ces arnaqueurs de la médecine?
Juste avant de répondre à votre question, je vais quand même déclarer mon conflit d'intérêt, parce que M. Duval me l'a fait remarquer. Mon lien d'intérêt, j'en ai un repas de 28 euros il y a 2 ans avec le laboratoire Ethypharm, qui est très intéressant sur les addictions sexuelles.
Bon,
voilà. Et je lui aussi prescrire médecine exercée.
Alors...
Sur ce, je réponds à votre question sur le trio de tête des fake news sur Internet. Moi, je dirais que c'est les vaccins, la maladie de Lyme, assez récemment, et tout ce qui touche autour de la cancéro.
Et ça, c'est propre à la France. Non, mais est-ce que, justement, cette dimension géographique, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est propre à la France? Parce que, en particulier, vaccins et Lyme, ce sont des sujets qui ne font pas forcément polémique dans d'autres régions de la planète.
Oui. Mais honnêtement, je ne saurais pas vous l'expliquer.
Ce sont des spécificités régionales, des spécificités culturelles et même, on peut dire, temporelles, parce qu'on peut dire qu'il y a des sujets qui font le buzz pendant un temps donné, d'autres moins, et même si la vaccination, c'est un petit peu à part, parce que ça fait pas mal de temps que cela dure. Alors justement, ce sujet, on ne peut plus stratégique, la vaccination, on en parle tout de suite avec vous. Marie-Paul Tieni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche INSERM dans le domaine de l'international. L'INSERM, qui pour son nouvel outil d'information scientifique Canal Détox a fait appel à votre expertise dans le domaine précis de la vaccination. 11 vaccins obligatoires en France depuis 2018. Pourquoi une telle suspicion sur cet outil majeur de santé publique?
Bien que la plupart en fait des Français reconnaissent et sont en accord avec les politiques de vaccination, puisque 75%, une des données de 2017 disent que 75% de la population de 15 à 75 ans se déclare favorable à la vaccination. En fait, quand il s'agit de se vacciner eux-mêmes, il y a une réticence. Alors pourquoi? C'est bien que la vaccination constitue, et on en est tous d'accord, l'une des principales interventions de santé publique qui ont contribué au recul des maladies infectieuses, on se trouve actuellement dans une situation où, en France en tout cas, dans les pays riches, le spectre des maladies infectieuses est un peu disparu et la plupart des gens n'ont jamais vu un cas de rougeole ou un cas de tétanos, encore moins, etc. Et donc, ces maladies paraissent très très lointaines et donc les gens, pour eux-mêmes, ne voient pas toujours le bienfait de la vaccination.
Est-ce qu'il peut expliquer justement que ces fake news dans le domaine de la vaccination n'ont pas du tout le même impact à l'échelle mondiale, Marie-Paul Tieni?
Alors à l'échelle mondiale, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a actuellement une communication globalisée. Alors quand on a des informations qui circulent en France sur des fake news en français sur Internet, ça va avoir une certaine pénétration dans les pays du Sud qui ont aussi le français en commun avec nous. Mais malgré tout, l'impact est nettement moins important. Alors je voudrais quand même donner un exemple. Par exemple, vous savez sans doute que vous souvenez que pendant la pandémie de grippe 2009-2010, il y avait énormément d'articles, de blogs très négatifs vis-à-vis de la vaccination sur Internet, et ces blogs ont eu un impact donc sur la volonté d'être vaccinés dans les pays d'Afrique francophone, par exemple.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une théorie du complot dans ce domaine particulier de la vaccination?
Alors oui, comme on sait et on voit, on le voit dans un peu partout, et on a une certaine rejection du système. Hein, ça se fait beaucoup quand on voit les gilets jaunes d'actualité, plutôt jaunes. On voit qu'une partie de leurs propos, c'est un rejet du système, un rejet des politiciens, un rejet des experts.
Et des médias aussi,
exactement. Et donc, c'est très facile d'utiliser cette défiance que les gens ont vis-à-vis du système pour faire circuler des rumeurs. Par exemple, une des rumeurs persistantes est que les autorités de santé préconisent la vaccination pour permettre aux industries pharmaceutiques de faire plus de profits. Et c'est une rumeur qui est extrêmement difficile à contrer, bien que, comme ça a été dit précédemment, il y a maintenant des politiques dans le domaine de la santé qui obligent les personnes qui interviennent à déclarer leur conflit d'intérêts.
Alors justement, est-ce qu'on étudie la façon de faire reculer cette défiance? Comment contrer ces réticences, justement, dans les milieux de santé, de la part des autorités de santé? Marie-Paul Quiénier, est-ce qu'on envisage des stratégies, justement, de réconciliation de l'opinion avec ces vaccins?
Alors, il faut surtout parler vrai. Et donc, j'ai entendu ça d'un intervenant précédent. Il faut se pencher sur ce que disent ces blogs. Qu'est-ce qui accroche la population? Qu'est-ce qui leur fait peur? Et essayer de comprendre ce qui leur fait peur. Et essayer de réagir, pas de réagir de façon violente, certainement pas, mais de bâtir un argument qui prend en compte leur peur. Et pas de prétendre que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faut accepter de reconnaître que les vaccins, très souvent, ont des effets secondaires. Alors, ces effets secondaires sont, dans la grande majorité des cas, d'une part, d'une ampleur et d'une durée très, très limitée. On peut parler de fièvre, de manque d'appétit chez un enfant. Mais il faut accepter de reconnaître que ça existe. Et donc, il faut aussi faire passer, je crois que c'est très important, faire passer un message que la vaccination, bien sûr, est une opération essentielle pour se protéger ou protéger son enfant contre les maladies infectieuses, mais que la vaccination est aussi une stratégie de santé publique qui permet de protéger la population dans son ensemble.
Et de protéger les personnes les plus vulnérables.
Absolument, tout à fait. Les personnes qui ont de vraies raisons, des contre-indications médicales qui font qu'ils ne puissent pas être vaccinés. Par exemple, des enfants qui ont eu un cancer, qui sont en traitement, les petits leucémiques, d'autres enfants et personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, la vaccination de leurs voisins, de leurs cousins, permet de les protéger.
Par exemple, toutes les personnes qui prennent des immunosuppresseurs, on peut parler des enfants greffés, on peut parler des personnes qui sont qui ont des maladies auto-immunes et qui nécessitent justement cette immunosuppression, toutes ces personnes ne peuvent pas se voir vacciner avec des vaccins vivants et sont donc particulièrement vulnérables.
Absolument, et c'est donc les vaccinations des petits-enfants protègent les autres qui ne peuvent pas être vaccinés.
Mais malgré tout, sur le temps, c'est important de le dire, les médecins démentent, apportent des arguments scientifiques, mais pourtant, ces fausses informations, elles ont la vie dure. Je voulais vous interroger en particulier sur les adjuvants dans les vaccins. On a beau expliquer que ces adjuvants, notamment à base d'aluminium, ne créent pas de lien avec d'autres maladies, eh bien, ça continue de circuler sur Internet et toutes les personnes qui y croient, elles y croient dur comme fer.
Ça, c'est un problème en fait, c'est très difficile d'arriver à démontrer des arguments qui sont basés sur la foi. Et c'est un peu le cas pour ceux qui sont persuadés que l'aluminium est nocif. C'est difficile de les persuader eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de gens dans lesquels les convictions ne sont pas si ancrées. Et c'est ces gens-là qu'on peut arriver à ramener vers plus de réalité. Aussi en leur disant, voilà, en France, nous sommes très inquiets, vous êtes très inquiets pour l'aluminium. Or, en fait, il faut savoir que, que les vaccins au niveau mondial sont produits par un très petit nombre de producteurs actuellement. Donc les vaccins que reçoivent les petits Allemands, les petits Anglais, les petits Espagnols sont les mêmes que ceux que reçoivent les petits Français. Et donc dans ces pays-là, on ne voit pas circuler de polémiques vis-à-vis de l'aluminium. Donc il doit bien y avoir quelque part un problème dans ces rumeurs. Et donc essayer par des mots simples de démonter les mécanismes qui font circuler les rumeurs.
Démonter les fake news sans occulter l'existence des effets secondaires. Merci beaucoup Marie-Paul Kieny d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche INSERM dans le domaine de l'international.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve nos invités Sylvain Duval, biologiste expert en nutrition, en duplex de Nantes, docteur Corentin Lacroix, médecin généraliste, blogueur pour sa chaîne YouTube WhyDoc. On peut dire, Sylvain Duval, à la décharge des esprits critiques, je vais pas me faire leur avocate, loin de là, mais quand même, il y a un certain flou qui est quand même entretenu. Regardez les perturbateurs endocriniens, les pesticides, et le poids, justement, on le disait tout à l'heure, le poids des industriels pour défendre leurs produits, y compris quand c'est mauvais pour la santé. Un certain nombre de consommateurs finissent par se dire, de toute façon, on nous dit n'importe quoi, ben pourquoi pas finalement croire n'importe quoi ?
Ben ça, c'est sûr qu'on nous dit n'importe quoi, ça c'est la vérité. Depuis longtemps, ça a été la première grosse stratégie qui a été bien maintenant démontée, analysée, parce qu'on a les archives, c'est la campagne du tabac. Donc comment les lobbies du tabac se sont défendus en asservissant parfois la médecine, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une manière de noyer le poisson, c'était de dire, voilà, tout ce qui va donner le cancer, on va faire des recherches sur tout ce qui donne le cancer, et comme ça, on parlera moins du cancer du poumon, au final. Donc ça existe. Moi, si je voulais dire un mot sur les vaccins, je dirais qu'il faut le traiter comme un médicament, comme les autres. C'est-à-dire que, d'ailleurs, moi, je dirais pas la vaccination, mais je prendrais bien vaccin par vaccin, parce que tous les vaccins peuvent être différents, être mis à des personnes différentes et avoir des effets différents. Donc,
on parlait quand même de ce bloc des 11 vaccins obligatoires pour les petits-enfants.
Mais quand on dit... Moi, ce qui me gêne, c'est le mot « la vaccination », parce que derrière le mot « la vaccination », on ne peut pas être pour ou contre. C'est comme si on disait « je suis pour ou contre les médicaments ». Vous voyez, chaque vaccin est différent. Bon, ça, je referme la parenthèse. Et donc, c'est vrai que les industriels ont dit pendant des années n'importe quoi. Et là, maintenant, les gens ne savent plus croire. Et par contre, quand ils doivent avoir accès à l'information scientifique, c'est très compliqué à lire, à décoder. Donc, ça veut dire que l'information scientifique, souvent, c'est difficile à résumer aussi. Donc, c'est plus facile de croire une phrase simple que d'écouter un argumentaire scientifique qui va la déconstruire.
Docteur Corentin Lacroix, d'autant plus qu'à côté de tous ces sites internet qui ont fleuri au cours des 20 dernières années, on a vu aussi des revues scientifiques bidon fleurir avec des études tronquées, avec des expertises infondées. Comment contrer justement cette pseudo-science qui attire le public, les patients, vers des fausses croyances?
Je pense que le meilleur moyen, c'est la discussion, l'entretien du médecin avec son patient ou de ses patients. C'est ce que je fais souvent en consultation. C'est le respect de sa conviction. Comme disait l'intervenante précédente, c'est difficile de détricoter des arguments basés sur la foi, mais ça n'empêche pas de respecter les gens, de respecter leurs croyances. Donc on essaie de les respecter, de reconnaître leur logique, et petit à petit d'établir une relation de confiance pour changer un peu les idées, mais ça prend du temps et c'est très difficile.
Information et tolérance, un fake news, phénomène international, on l'a compris. Et tout de suite, nouvelle illustration, on part pour la Guinée. Conakry, où l'on vous retrouve, docteur Maurice Ndakouyaté, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur exécutif du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, fake news, rumeurs, on en parle. Est-ce que vous pouvez nous citer justement, docteur Maurice Ndakouyaté, l'une de ces fausses infos santé qui circulent en Guinée?
Oui, bon, la Guinée, ce n'est pas une particularité. C'est que, comme vos invités sur le plateau le disent, c'est un phénomène international, malheureusement. Et la base, généralement, c'est la santé et l'alimentation, deux choses importantes pour l'humain. Alors, Nous, nous luttons dans le cadre, depuis près de 3 décennies maintenant, dans le cadre de l'élimination des mutilations génitales féminines, des mariages d'enfants et d'autres pratiques néfastes à la santé des femmes et des enfants. Une des rumeurs qui avait circulé il y a 3 ou 4 ans, par exemple en Guinée, c'est quand les gens ont raconté qu'il y aurait une mouche particulière qui serait venue du nord et qui, si elle se posait sur une fille non excisée, elle pourrait attraper une maladie mortelle. Alors, ce qui a fait grand bruit, et les filles qu'on avait sauvées grâce à la sensibilisation de plusieurs années ont été à tour de bras excisées parce que les gens avaient peur que cette mouche ne se pose sur elle et qu'elle meure.
Mais là, c'est très complexe. Alors, d'atteindre ces personnes. On imagine que c'est dans des villages plutôt reculés, qu'il faut beaucoup de monde pour essayer d'aller expliquer, faire des causeries. Comment vous faites ?
Malheureusement, il est plus facile de lâcher comme ça, c'est une bombe aussi toxique, que de lutter contre les méfaits. Alors, ce que nous avons fait, et ce qu'il faut, à mon avis, faire, c'est d'amener des personnalités de confiance. Et vous savez que parmi les populations, les personnes les plus écoutées, ce sont d'abord le personnel de la santé, les enseignants et les leaders religieux. Alors, il faut prendre ce groupe-là pour essayer de déconstruire la fausse nouvelle. Si un médecin vient ou une sage-femme vient devant des populations pour faire une démonstration avec des images à l'appui, les populations ont plus tendance à croire en la sage-femme et en le médecin qu'à la fausse rumeur. Mais ce n'est pas facile. Et souvent, certains professionnels ont peur de venir parce que à ces professionnels, on leur dit aussi, mais si vous allez contredire ça, vous risquez d'attraper telle maladie ou tout. Donc, ils sont effrayés aussi. Alors, ce n'est pas aussi facile.
Parce qu'on voit là le poids de la croyance. Votre travail porte en particulier, docteur Kouyaté, sur la santé maternelle. Et là aussi, des fausses informations qui peuvent être très dangereuses pour la santé des bébés.
Absolument. Il y a tellement de fausses nouvelles, d'infox sur l'alimentation, sur la maternité, que c'est assez grave et qu'il faut en tenir compte dans la lutte pour la santé.
Alors justement, profitons de l'antenne pour démonter une de ces rumeurs. Vous nous avez parlé, quand on a préparé l'émission, de l'allaitement maternel. Certains s'en prennent à l'allaitement maternel, alors que l'on sait c'est la meilleure nourriture pour un nouveau-né, qui plus est dans le contexte africain.
Absolument. Il y a, dans certaines communautés, il y a une fausse croyance, une grave croyance, qui disent que le premier lait qu'on appelle le colostrum, et qui est le premier lait, qui n'est pas un vrai lait, c'est vraiment des protéines que la maman produit avant de produire le vrai lait de son sein. Et que ce colostrum est extrêmement important dans le domaine de la protection de l'immunité et de la protection du nouveau-né. Mais dans certaines communautés, on dit que ce colostrum est dangereux et que l'enfant ne devrait pas le boire. Donc, on presse d'abord le sein, on jette ce colostrum et on attend le vrai lait. Ce qui est extrêmement dangereux parce que ça diminue la protection de l'enfant.
C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais d'où vient cette croyance ? C'est incroyable d'inverser ce qui est le meilleur pour le bébé, on le jette. Pourquoi ?
Absolument. Mais vous savez, vraiment, souvent on ne sait pas. Ça sort de la nuit des temps, ça sort comme ça et on se demande... Et vous avez dit une phrase qui est extrêmement importante en préparant, en introduisant votre émission. Vous avez dit, il y a souvent de l'intox, plus le mensonge est gros, plus on y croit.
C'est vrai que des fois on est atterré, on se dit, mais c'est pas possible. Donc il faut comprendre pourquoi les gens peuvent croire à des choses pareilles.
Absolument. À l'évidence, on sent que c'est pas possible. Mais plus c'est comme ça, plus les gens y croient. Donc on ne saura expliquer scientifiquement pourquoi les gens croient à des choses qui sont à l'évidence des énormités.
On peut le comprendre, docteur Kouyaté, quand certains essayent d'éloigner, par exemple, les patients de l'hôpital, quand on dit que certaines maladies ne peuvent pas être soignées à l'hôpital. Là, par contre, on comprend peut-être que derrière, ça permet de laisser les personnes à la merci de non-médecins qui vont leur apporter d'autres remèdes.
Oui, absolument. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Quand j'étais jeune médecin dans des préfectures à l'intérieur de la Guinée, j'ai connu ça. Des malades qui venaient avec des cas de cancer, des maladies extrêmement graves. Et le matin, quand je viens, après, alors qu'on a tout fait pour ces malades, on cherche à les sauver, le matin, on vient, on trouve que le malade a disparu. Il est parti. Parce que quelqu'un est venu lui dire, cette maladie ne se traitera jamais à l'hôpital. C'est à la médecine traditionnelle. Donc, ce sont des médecins traditionnalistes aussi qui sont bons, hein, je ne suis pas en train de les... Mais il y en a de très bons, qui aussi veulent drainer les malades vers eux, en disant aux parents des malades, cette maladie, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, ça ne peut se soigner qu'au niveau traditionnel. Donc, il y a une sorte de tiraillement pour se faire une notoriété ou pour s'attirer les bonnes grâces des patients. Il y a cela.
Merci beaucoup. Merci, docteur Maurice Ndakouyaté, d'avoir été avec nous en ligne de Guinée. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Docteur Corentin Lacroix, est-ce que les explications parviennent à convaincre? Vous disiez tout à l'heure, ceux qui croient aux fake news, un certain nombre en tout cas, sont très difficiles à convaincre. Est-ce qu'il y a des arguments qui marchent mieux que d'autres?
En général, c'est pas vraiment l'explication qui marche, c'est la discussion. On va demander au patient pourquoi, enfin, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi vous le pensez, et ensuite on va bâtir notre raisonnement là-dessus. Donc, moi, quand je fais des vidéos, je fais un monologue, ça me sert des fois de rappel à ce que j'ai dit en consultation, mais la première chose, c'est le dialogue à partir de ce que m'apportent les gens. Il n'y a pas de formule magique.
En plus, c'est difficile, Sylvain Duval, parce qu'on peut se dire qu'un certain nombre de ceux qui consomment ces fake news sont aussi des victimes de cette rumeur, parce qu'ils peuvent aussi, sur le plan de leur santé, de leur propre santé, en subir directement les conséquences. Ils peuvent certes les faire circuler, mais ils peuvent aussi avoir un impact sur la santé de leur famille, notamment la santé des enfants. Là, ça pose un véritable problème de responsabilité.
Prenons par l'exemple d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui du cholestérol. Autour du cholestérol, on voit qu'il y a des enjeux à la fois de nutrition, de santé et aussi donc des pharmacologiques, puisqu'il y a des médicaments anti-cholestérol. Et quand on entend des nouvelles, par exemple sur les œufs, on va dire qu'il ne faut pas manger trop d'œufs parce que ça donne du cholestérol. Ça, c'est une idée que j'ai démontée dans mon livre et que maintenant, 3 ans plus tard, je l'ai retrouvée démontée sur de nombreux sites, de nombreux magazines, etc. Dans Science & Vie aussi, je crois d'ailleurs. Donc, cette idée-là, c'était de dire, voilà, un produit contient du cholestérol, donc ça va donner du cholestérol. Ça paraît logique. Et les gens qui n'ont pas de formation médicale, pour eux, ça leur parle. Donc, ça paraissait évident. Et j'ai vu beaucoup de médecins, quand quelqu'un a son taux de cholestérol qui augmente, avant de lui prescrire un médicament, évidemment, le médecin va dire, on va commencer par un régime. Et souvent, il va exclure tous les produits animaux, les œufs et les matières grasses. Comme si on allait trouver dans les artères un bloc de gras qui bloquait le sang. Alors qu'une plaque d'athérosclérose, c'est absolument pas un bloc de gras. Donc, ce qui est compliqué pour ce sujet-là, vous voyez que c'est un sujet qui va toucher à la fois la famille, la femme qui va s'inquiéter pour son mari parce qu'elle a un peu trop de cholestérol, la personne qui va se dire, est-ce que je dois faire du sport? Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois prendre ce médicament? Vous voyez que ça devient d'une grande complexité. Et ce sujet du cholestérol que j'ai suivi vraiment de très près, en lisant tout ce qui était dessus, c'est quelque chose qui date des années 70. Et en 2018, c'est toujours pas résolu.
Alors, on arrive à la conclusion de notre échange. On a vu qu'un certain nombre de ces fake news relèvent carrément de la fraude, de l'abus. Corentin Lacroix, docteur Lacroix, est-ce que la loi ne peut rien contre ces intox?
C'est assez difficile de répondre. La loi devrait pouvoir condamner les charlatans qui profitent abusivement de la crédibilité des gens. Mais s'est pas forcément appliqué. Je suis désolé de pas pouvoir mieux répondre à cette question.
Non, mais en tout cas, sur les hébergeurs, sur un certain nombre de fausses infos qui en profitent pour se faire de l'argent, Sylvain Duval, tout à l'heure, vous avez souligné, mais on peut y revenir, en tout cas, quelque chose sur lequel on peut agir, dans votre domaine, celui de la nutrition, des changements qui pourraient apporter une meilleure confiance, améliorer la confiance, notamment la transparence sur les conflits d'intérêts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Alors, il me semblait que j'avais entendu parler qu'il y avait une loi sur les fake news qui était passée récemment ou qui était en construction. Faudrait que je regarde ça de plus
près. Elle concerne davantage les médias qu'autre chose.
D'accord, pour les médias alors. Et sinon, effectivement, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, qu'il y ait aussi une obligation légale de déclarer les conflits, les liens d'intérêt quand un professionnel de santé s'exprime sur la nutrition. Mais une fois de plus, je rappelle que dans la plupart des journaux, des émissions, ce n'est pas fait. La loi existe déjà depuis longtemps. Depuis 2011, ça a été réappliqué en 2014, puis en 2016, et ça n'est toujours pas fait. Donc bon, faisons que la loi existe, comme ça on pourra étendre nos actions et essayer de juguler tout ça.
Merci beaucoup. On vous remercie d'avoir éclairé les auditeurs de Priorité Santé, de nous avoir éclairé sur ces fake news en matière de santé. Merci d'être venu ici dans les studios de RFI, Sylvain Duval, biologiste, expert en nutrition. Merci à vous, Docteur Corentin Lacroix, médecin généraliste, blogueur pour votre chaîne YouTube Why Doc. On remercie encore nos confrères de France Bleu Loire-Océan de vous avoir accueillis dans leur studio.
Priorité santé sur RFI.
L'impact de la pollution sur la santé, préoccupation majeure qui s'appuie sur des constats, des chiffres parmi des études, une récente qui fait le point sur la situation dans la métropole ivoirienne Abidjan. Pour en parler en ligne avec nous, Isabella Anessi Maessano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'équipe d'épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et santé publique de l'INSERM. Qu'est-ce qui ressort, Isabella Anessi Maessano, de cette étude dont les résultats viennent d'être rendus publics?
Ben, il ressort que les habitants d'Abidjan sont exposés de façon excessive à plusieurs polluants, et nous avons plus particulièrement considéré les particules, hein, parce que elles peuvent pénétrer dans l'arbre bronchique et puis atteindre plusieurs organes. Et notamment, cette exposition varie en fonction des sources. Nous avons considéré trois sources: le trafic, le brûlage du bois et puis la décharge. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un impact significatif de l'exposition à ces polluants sur la santé.
Avec quelle manifestation en termes de pathologie, en termes de maladie, comment est-ce que cela a pu être repéré dans les différentes structures médicales?
Alors donc, on a impliqué tous les hôpitaux et le CHU aussi d'Abidjan. Et donc, on a mesuré tous les jours les événements de santé, et avec une attention plus particulière pour les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et les maladies de la peau.
Et justement, pour mesurer la situation, l'état de la pollution dans cette métropole Abidjan, quel système de surveillance, de concentration des polluants existe?
Et bon, pendant cette étude qui s'appelle Takiwa, un système a été établi par le professeur Kwame et Yakoumé, qui sont à Abidjan, hein. Et pendant tous les jours, il y a eu un suivi de la pollution. Et c'est grâce à ces données de pollution que nous avons pu établir une relation significative entre l'exposition à la pollution et les effets sanitaires.
Merci beaucoup. Merci Isabella Anessi Maessano. Je rappelle que vous êtes responsable de l'équipe d'épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie de santé publique de l'INSERM. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Keïla Soulez, Siar et Didier Bleu. Demain, nous parlerons des rhumatismes. Bien sûr, on attend vos questions, vos témoignages sur notre page Facebook et notre numéro 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre